en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le philosophe Bernard Bourgeois a donné le lundi 7 novembre 2011 à l'Académie des sciences morales et politiques, devant ses confrères réunis en séance, une communication intitulée « Hegel actuel ». Bernard Bourgeois a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 2 décembre 2002 dans la section philosophie, au fauteuil laissé vacant par le décès d'Olivier Lacombe, entré grâce à Canal Academy dans la salle des séances.
Plus, je crois, que tout autre penseur, Hegel demeure présent du début du XIXe siècle à ses premières décennies du XXIe siècle, au cœur du débat non seulement stricto sensu philosophique, mais plus généralement, plus largement culturel, qui se développe presque partout dans un lieu ou dans un autre de l'ancien monde et du nouveau monde. Il y est présent presque toujours de façon non neutre, mais ou exécré ou encensé, simultanément ou alternativement, suivant les vicissitudes d'une actualité mondaine à laquelle on le lit généralement pour l'infirmer ou pour le confirmer. Cela, il faut le dire à juste titre, puisque lui-même a lié intimement sa pensée, même en sa dimension transmondaine, ou pour employer le terme traditionnel, en sa dimension métaphysique, il a lié sa pensée à cette actualité qu'il a thématisée après Aristote, mais à travers tout son champ sublunaire, c'est-à-dire historique, comme un nouvel objet philosophique, mieux comme l'objet philosophique total. La philosophie, pour lui, ne peut pas ne pas être, même malgré elle. Elle doit donc s'accomplir en sa systématisation, en sa totalisation concrète, qui lie toutes ses affirmations pleinement assumées, comme le grand discours sur l'état du monde. Toujours, même lorsqu'il parle de religion ou de philosophie, Hegel tient un discours qui est le discours sur l'état du monde. Mais cette actualité, cet état du monde est à saisir d'abord, à ses yeux, tout en ne s'y réduisant pas dans un aplatissement dispersant, il est à saisir cet état actuel du monde dans l'immédiateté de sa présence, dans l'immédiateté de son présent, tel qu'il est à ce jour même, au fait de sa spéculation. Après la publication en 1807 de la Phénoménologie de l'esprit, Hegel entre lui-même dans ce présent journalier. Il entre lui-même en journalisme et il fait sa prière du matin réaliste, sans oublier l'autre, car pour lui, l'autre prière, la prière à Dieu et la prière du matin réaliste ne font qu'une seule et même prière. Il entre en journalisme comme directeur pendant plusieurs mois de la Gazette de Bamberg. Il justifie de la sorte, par une telle théorie et par une telle pratique de la philosophie, de sa philosophie, compose au sujet de cette philosophie la question de sa vérité et de sa vérité proprement hegelienne sous la forme objective, périlleuse, parce que vérifiable, sous la forme objective, écartant le subjectivisme dont il avait horreur, sous la forme objective de son actualité. Si Hegel n'est pas actuel, à ses yeux même, il ne peut pas être vrai. Mais si juger Hegel hegeliennement, donc dans un jugement qu'il ne saurait récuser, c'est d'abord s'interroger sur son actualité, forcé, me semble-t-il, de constater qu'il est tout aussi vrai que la philosophie par excellence dont on songe à mesurer l'actualité avec insistance. Aujourd'hui encore, et peut-être surtout, c'est essentiellement, sinon exclusivement, la philosophie hegelienne. Vous-même, Monsieur le Président, m'avait bien suggéré et donc imposé ce sujet. Une telle actualité de la seule et simple question de l'actualité de Hegel me paraît témoigner déjà de l'actualité même de la chose en question, et elle m'engage alors sur la voie d'une réponse positive. Oui, pour moi, Hegel est actuel, sans doute plus que tout autre penseur, et peut-être plus que jamais. Je voudrais d'abord proposer quelques considérations sur le sens de l'actualité et de son affirmation dans le cas du hegelianisme. Je voudrais ensuite établir la réalité de l'actualité de cette pensée hegelienne en m'appuyant sur son texte le plus manifeste et le plus obvie. Je voudrais enfin défendre sa possibilité privilégiée de l'affirmation de l'actualité de Hegel. Je voudrais défendre sa possibilité privilégiée pour ce qui, dans le présent, semble excéder le texte même de Hegel et concerner des problèmes dont il n'aurait pas vraiment parlé. Je suis parfaitement conscient du risque ainsi croissant que je prends, le risque jamais éliminé de mal lire un auteur si difficile, pour lequel il n'y a jamais d'acquis. Il faut toujours reprendre l'effort de compréhension à zéro. Le risque, plus grand encore, de ne plus lire du tout Hegel en voulant hegelianiser strictement, et cela au-delà de lui-même et de ce dont il a traité. Et enfin, le risque, chers confrères, le plus grand de tous, le risque que je n'aurais pas dû affronter en tentant de me prononcer sur l'état actuel du monde, car le sujet porte sur l'état actuel du monde, devant vous, que vos sciences respectives arment en vue d'en discerner et d'en maîtriser le sens réel beaucoup mieux que le rhéteur que je suis, que vous me jugerez sans doute être. L'actualité pour Hegel. On ne peut pas dire Hegel actuel, au sens où l'on s'est plu maintes fois à le dénoncer comme celui qui, idéologue, car au service d'une cause extérieure, celle de la vérité, celui qui, alors idéologue plus que philosophe, aurait simplement consacré dans sa philosophie, et c'est pourquoi elle serait actuelle, le fait brut, le fait positif de la force prussienne, c'était l'interprétation d'un grand nombre de penseurs allemands et français, Rudolf Heim en particulier, ou le fait brut de la puissance bourgeoise existante, ce fut, vous le savez, la lecture de Marx. C'est dans le sens opposé que doit se lire la célèbre équation hegelienne du rationnel et du réel, dont la séquence est bien, premièrement, ce qui est rationnel, on part du rationnel, ce qui est rationnel est réel, puis, deuxièmement seulement, ce qui est réel est rationnel. C'est-à-dire que c'est parce que la raison se réalise que le réel se rationalise, parce que le sens se fait sensible, que le sensible lui-même prend sens. Hegel est donc actuel dans l'acception même qu'a chez lui l'actuel, à savoir d'être la réalisation sensible, empirique, positive, de ce qui est posé par l'activité plénière, l'auto-activité ou la liberté qu'est la raison ou l'esprit, prenant conscience de soi dans la spéculation philosophique. L'actuel, c'est ce qui est actif, auto-actif, un processus certes, mais un processus procédant de lui-même, guidé et contrôlé par lui-même, ce processus donc guidé par un esprit, par un soi, qui dépose successivement la positivité ou les positivités dans l'existence. Aristotélicien, Hegel sait que l'intelligible, l'acte immanent au sensible, fait ce qu'il y a de vraiment réel dans le sensible. Aristotélicien chrétien, il pense que le verbe se fait chair sans reste, même pour montrer charnellement, en quelque sorte, par la disparition de la chair dans le sépulcre, qu'il est infiniment plus que simple chair. Et que c'est donc dans l'épreuve du sensible que la vérité triomphe et s'avère absolument. Révélée est la vérité à concevoir, et c'est pourquoi le plus grand spéculatif de l'histoire de la philosophie, après Aristote, fut aussi, après Aristote, son plus grand empirique. On a reproché à Hegel d'avoir bâti conceptuellement dans le vide des architectoniques qui n'avaient absolument plus aucun rapport avec la réalité la plus modeste, la plus humble, la plus immédiate. Ignorant ces propositions qui sont de Hegel et que j'évoque rapidement, tout nous parvient de façon extérieure. Tout savoir, même le savoir philosophique, tout savoir est d'autorité, c'est-à-dire nous le rencontrons comme quelque chose qui s'impose à nous et que nous ne construisons pas arbitrairement. Tout savoir est d'autorité, ce que l'école actuelle a beaucoup oublié. Tout savoir est d'autorité. Et l'autorité, c'est d'abord celle de l'être, c'est-à-dire de ce qui n'est pas moi, de ce qui est pour moi objet, de ce qui s'objecte à moi, de ce qui me limite. L'être se donne lui-même, cet être qui a l'autorité. Cet être se donne lui-même sensiblement. Il est à découvrir, même s'il est à mettre dans un concept qui semble s'autoproduire lui-même et se justifier. Le vrai est perceptible, le vrai est perçu, même comme étant infiniment plus que perçu. Hegel potentialise bien, il développe Aristote, dont les deux affirmations essentielles sont celles-ci. L'être en sa vérité, l'acte pur, Dieu est pensée de la pensée. Et d'autre part, toute connaissance et tout être qui se révèle à nous est un être sensible. Hegel va lier ces deux affirmations aristotéliciennes qui sont juxtaposées chez Aristote. L'être est pensée de la pensée, ce qui semble donc le moins sensible, et par ailleurs l'être. Il est toujours, il se révèle à moi, toujours de façon sensible. Il va réunir ces deux exigences aristotéliciennes en développant l'héritage chrétien. Le Dieu, pensée de la pensée, s'est fait sensible. L'immensité de l'être, l'immensité du ciel est venue s'exprimer dans l'intériorité d'une grotte obscure, modeste. Dieu s'est incarné et c'est pourquoi Hegel, dans une large mesure, il est bien le continuateur d'Aristote. Mais l'expérience la plus réelle, la plus résistante, la plus probante, c'est pas l'expérience intérieure qu'une intuition subjective peut livrer. C'est l'expérience extérieure, c'est l'expérience objective, celle que l'esprit fait de lui-même en tant qu'il est, suivant l'expression de Hegel, l'esprit objectif, c'est-à-dire le monde historique du droit, de la société et de l'État, qui conditionne, j'y reviendrai d'ailleurs, aussi les manifestations de l'esprit supra-objectif ou absolu, l'esprit qui se déploie dans la culture, l'art, la religion et la philosophie. Hegel, par cette conception du vrai, qui toujours, même dans ce qu'il a d'extrêmement transcendant, si je puis dire, par rapport au sensible, toujours, il se livre sensiblement. Hegel, ici, se rend en quelque sorte, pour employer l'expression de quelqu'un qui a bien mal parlé de lui, Karl Popper, Hegel se rend falsifiable. S'il est vrai, il doit être confirmé dans l'expérience la plus extérieure, la plus résistante, la plus objective, celle du monde humain tel qu'il se réalise dans la vie sociale et la vie politique. Dès lors, le jugement sur l'actualité de Hegel, dans lequel il y va de la question de la vérité de sa pensée, ne peut pas, étant donné le caractère systématique ou totalisant de cette pensée, même lorsqu'elle parle de toute autre chose que de l'actualité sociopolitique, par exemple de la religion ou de la philosophie, ce jugement, un jugement sur l'actualité de Hegel, ne peut pas faire abstraction du jugement en tout sens objectif que le monde juridico-sociopolitique de l'histoire, par son existence même, porte sur ce que Hegel a dit qu'il devait être. Si une philosophie, c'est son monde saisi par la pensée, saisi toujours aussi de façon critique parce que la pensée, elle universalise et par conséquent, elle relative le particulier qu'elle saisit. Si une philosophie, c'est son monde saisi par la pensée, ce monde jugera cette philosophie mieux que ne la jugerait une autre philosophie qui négligerait un tel monde en sa positivité ou qui serait démentie par lui en le disant autre que lui. Tel fut bien le cas du jugement porté sur l'actualité de Hegel. Hegel ne fut pas reçu par les siens, les philosophes. Il s'était regardé comme le dernier dans la philosophie pérenne, considérant que tout avait été dit, considérant qu'il ne disait rien d'autre, au fond, que ce que Parménide et Héraclite avaient dit. On n'eut pas semblable modestie après lui. C'est à l'opposé, en effet. En proclamant son inactualité définitive, ils partent tous de lui, pratiquement. Même 150 ans après lui, ils partent de lui comme celui qui doit être renvoyé au passé et à travers lui toute la philosophie qu'il a récapitulée. Ils s'affirment tous, chacun comme le premier, à ouvrir le chemin de la vérité. De Schopenhauer à Lévinas, en passant par Schleiermacher et Feuerbach, Kierkegaard et Marx, Nietzsche et Bergson, Heidegger et Sartre, Foucault et Derrida. Tous proclament qu'ils mettent un terme à une histoire que Hegel a récapitulée et qu'ils sont les premiers à entrer dans le chemin de la vérité. Schopenhauer, Hegel n'a pas vu que ce qu'il pense en nous, ce n'est pas l'intelligence, mais la volonté, un vouloir aveugle. Kierkegaard, Hegel a prétendu réconcilier le sujet à l'objet, mais il n'a rien compris au sujet. Marx, Hegel, qui a prétendu réconcilier l'objet et le sujet, n'a rien compris à l'objet. Nietzsche et Bergson, l'un et l'autre, dénoncent une philosophie qui a toujours saisi l'être à partir du non-être ou du néant. Critique du nihilisme chez Nietzsche, critique de l'idée de néant chez Bergson. Heidegger et Sartre, c'est la même chose. Heidegger, chacun, et Hegel, le dernier, n'a saisi que le temps. Moi, je vois s'éclore à travers les temps l'être. Foucault, la même chose. Derrida, ce qui est premier, c'est pas l'identité identifiant, c'est la différence en tant qu'elle fait différer les choses. Lévinas, tous, jusqu'à moi, ont confondu l'être avec la totalité. Je suis le premier à révéler que l'être, c'est l'infini, qu'il ne se rencontre pas dans une prospection conceptuelle des choses, mais simplement dans le regard de l'autre sur moi. Certes, ce rejet de Hegel, considéré comme le dernier dans l'erreur, certes, ce rejet ne va pas sans quelque troublante mauvaise conscience, puisque l'on reconnaît généralement que quand on croit en avoir fini avec lui, le voilà qui revient, Foucault dit à peu près cela, vous le chassez par la porte, il revient par la fenêtre. Et le plus grand synthétiseur de toute la philosophie moderne et contemporaine, le grand bénisseur de toutes les philosophies, Ricoeur lui-même, reconnaît que oui, l'exode nécessaire, en dehors du hégélianisme, laisse une blessure dont on ne guérit pas. Il ne s'agit ici d'instruire un procès philosophique de l'après-hégélianisme. Je crois qu'il faudrait le faire quand même. Je veux seulement faire observer que l'on a congédié trop confortablement Hegel en mettant généralement hors jeu le moment mondain de son système, pourtant décisif. On l'a dépassé, mais en laissant de côté le lieu où le caractère falsifiable de son système pouvait être affirmé, à savoir le monde socio-politique. Et il est bien vrai que lorsqu'on a voulu tenir compte de celui-ci comme Marx, qui a fondé son parricide sur l'allégation d'un monde objectif anti-hégélien, on s'est trouvé réfuté par l'autodestruction d'un tel monde que l'histoire a révélé ainsi être une longue parenthèse, comme Hegel pense qu'il en existe, même des parenthèses qui durent 70 ans, parenthèse dont la négation confirma ce qu'elle voulait nier, car c'est aussi un thème hegelien. Que l'affirmation vraie de toute chose n'est pas la première, mais la seconde, en tant que cette seconde affirmation nie la négation de la première. C'est toujours la deuxième fois qui est la bonne. C'est pourquoi les hegeliens, les vrais hegeliens, ont été notamment ou aussi des penseurs, des théoriciens ou des praticiens du monde juridico-socio-politique de l'histoire qui ont cru pouvoir mieux comprendre et promouvoir ce monde à partir de l'actualité que leur en présentait Hegel comme un processus immanent de rationalisation du réel. Et je voudrais rapidement prendre l'exemple de l'accueil de Hegel en France par des gens qui n'étaient pas des philosophes, si vous voulez, au sens absolument technique du terme, mais qui ont trouvé dans Hegel celui qui leur permettait de mieux s'y retrouver dans la pratique adéquate de leur monde. Cousin, qui a visité Hegel, que Hegel a visité, Cousin l'avait présenté en 1827, à Migné, à Thiers, à quelques autres, Cousin l'a raccompagné jusqu'à Cologne. Cousin, c'est dit le disciple de Hegel, il a inauguré son règne universitaire qui a duré jusqu'au milieu du XIXe siècle en voulant faire consacrer par celui qu'il appelait son maître sa propre entreprise d'élaboration d'une pensée européenne à travers la réconciliation éclectique de l'entendement français, cousinien, et de la raison allemande. L'entendement français d'abord matérialiste, mais qui se rapproche de ce qui se passe en Allemagne en affirmant que le réel, c'est un réalisme toujours, que le réel est un réel spirituel. En Allemagne, la raison, qui est idéaliste, mais qui avec Schelling et Hegel fait un pas vers l'autre en s'efforçant de trouver du sens déjà dans la nature elle-même. Cousin voulait réconcilier la France et l'Allemagne. Si vous voulez, il interrompt la prégnance de l'exemple anglais. C'est à l'Allemagne qu'il demande des leçons ou des conseils, et non plus à l'Angleterre, voulant réconcilier donc l'intellect français et la raison allemande. Cette réconciliation philosophique et donc culturelle, Cousin a identifié la culture et la philosophie, ou la philosophie et la culture, devant servir de fondement à un rapprochement politique. Le second demi-siècle sera dominé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias, donc non plus dans l'université, mais dans les médias, par l'ennemi intime de Cousin. Cet ennemi que Cousin rendait responsable de son échec sidérant à l'agrégation de philosophie, cet ennemi de Cousin avait été reçu premier à l'École normale supérieure, tout le monde le donnait comme cacique à l'agrégation, il a, à la surprise générale, il a été collé et le collé en a rendu responsable par président de jury d'agrégation interposée, Cousin lui-même. Eh bien, cet ennemi intime de Cousin, Taine s'est consolé de son échec à l'agrégation en lisant tous les jours Hegel. Hegel, ce Spinoza multiplié par Aristote, le plus grand penseur du siècle. Et même lorsque Taine a pris ses distances vis-à-vis de Hegel, il n'a pas moins continué de le considérer comme étant le géant philosophique du siècle. Lui-même, Taine, est Renan, ce Hegel littérairement relevé, comme dira Victor Delbos, décide en janvier 1870 de faire ériger sur l'une des places les plus monumentales de Paris une statue à Hegel qu'il mobilise dans leur dessin politico-culturel d'ancrage naturel ou terrestre de l'histoire ou d'ancrage terrestre du ciel. Mais 1871 est proche, Hegel n'aura pas sa statue parisienne. En ce lieu même, dans cette académie, on va vilipender le Prussien. Mais vers la fin du siècle, en ce même lieu, en 1889, Lévi-Brühl va célébrer dans le penseur allemand le philosophe social de l'avenir, l'homme qui fait l'éloge de l'auto-administration des communes et des corporations. Jaurès, lui-même, proclamera l'admirable doctrine de Hegel. Hegel, dont Bismarck s'est inspiré, reprenant même ses arguments, dont Bebel et Liebknecht reprendront également certains thèmes dans leur socialisme d'État. En tout cas, Hegel revient au devant de la scène, non pas en tant que philosophe de l'État, on concède qu'il a quand même été trop favorable à la Prusse, même dans cette académie, un penseur français qui avait exalté Hegel avant le désastre de 1870, Vacherot, Étienne Vacherot, a dû concéder, bien sûr, il a eu des excès, je n'ai pas été d'accord avec lui sur tous les points. En tout cas, la période se clôt vers la fin du siècle, Hegel redevient donc le penseur qu'il faut imiter, et un peu plus tard, au XXe siècle, Alain, pourtant l'admirateur d'Auguste Comte, déclarera que si celui-ci a créé le mot sociologie, c'est Hegel qui a construit la chose en sa vérité définitive, dans la juste articulation du rapport entre la société civile et l'État, texte unique de toutes les pensées vraies qui seront à dire à ce sujet, selon Alain, jusqu'à la fin du XXe siècle. En 1969, Moïse Schumann m'écrivit combien il était frappé de découvrir, il avait lu mon petit livre sur la pensée politique de Hegel, il était frappé de découvrir en Hegel le théoricien par anticipation du gaullisme. Bref, le monde a en fait hegelianisé, en le sachant, avant ou après, le fait-il encore maintenant, reçoit-il encore Hegel, et si oui, en quoi est-il encore hegelien, même en ne le sachant plus. Il y a un recouvrement de fait entre le monde socio-politico-culturel fixé et fondé par la raison hegelienne comme étant définitivement le vrai et ce même monde tel qu'il existe en la pointe actuelle de sa dynamique. C'est que dans le foisonnement révolutionnaire de son temps, Hegel a su discerner et justifier ce que son avenir historique seulement plus tard allait confirmer comme la réalité vraie du monde humain. C'est d'ailleurs dans son anticipation hegelienne que Marx, déjà, pour le critiquer radicalement, avait lu en sa réalité accomplie l'État dit par lui bourgeois, un État qu'il jugeait destiné à passer, mais dont l'effondrement de la parenthèse marxiste a vérifié l'être ainsi manifestement consolidé. Le monde sociopolitique le plus avancé hegelianise donc en fait et positivement à travers ses succès, quand il s'accorde avec les traits hegeliens, et négativement, par ses échecs et ses difficultés, lorsqu'il s'en écarte. Qui sait? Si hegelianisant en le sachant et voulant, il ne serait pas fortifié dans son propre développement. Car celui-ci, ce développement, s'opère bien suivant l'articulation des deux moments constitutifs de ce que Hegel appelle l'esprit objectif, le droit, la société d'État, le moment de l'esprit est le moment de l'objectivité. L'esprit, le soi, qui, identique à soi, puisqu'il se réfléchit en lui-même, est par cette identité. L'être, c'est ce qui est identique à soi. Est et fait être est l'objectivation ou l'incarnation qui, objection à soi ou différence d'avec soi, apporte l'attention de la vie. Le premier, l'esprit, qui est, assure dans et par son être la vie que le second lui apporte et qu'il laisse libéralement se développer en lui, en intervenant simplement mais fermement en elle pour maintenir cette vie en l'être contre toute explosion spontanée d'elle-même. Cela, conformément au grand principe hégélien, qui est le grand principe chrétien, suivant lequel la réunion des opposés, dans quelque domaine que ce soit, et ça vaut pour le domaine politique, suivant lequel la réunion des opposés, qui ne peut se réduire à la simple action réciproque, la catégorie d'action réciproque, c'est la catégorie paresseuse par excellence. Donc, le principe selon lequel la réunion des opposés n'est pas l'œuvre d'un tiers venant d'on ne sait où est fort, on ne sait pourquoi. Il n'y a jamais et nulle part de troisième force. Il y a toujours un troisième moment de tout ce qui est, mais il n'est jamais l'œuvre d'une troisième force. C'est toujours l'un des opposés, ça c'est le schéma hégélien fondamental. C'est toujours l'un des opposés, celui qui est le plus fort est capable de faire une place à l'autre, de le reconnaître comme son autre, puisqu'il est déterminé ou limité par lui. C'est toujours la différence qui détermine, l'opposition qui détermine. Un autre qu'il peut dès lors réintégrer à lui-même, car il est son autre, en s'enrichissant lui-même. La puissance réconciliatrice est toujours celle du sacrifice. C'est toujours l'un des deux opposés qui, le plus fort, peut se permettre d'être libéral et, se sacrifiant en quelque sorte, opère sa réunion avec lui-même. A est toujours le porteur de sa relation d'opposition et ensuite de réconciliation avec B. Ainsi en va-t-il dans le monde en gestation du rapport, car je ne parlais que de cela jusqu'à maintenant, du rapport entre l'État et la société civile. L'État, ce qui est en l'État, qui subsiste, et la société civile, le mouvement même de l'existence. En voici quelques aspects très lacunaires, sélectionnés d'ailleurs de façon arbitraire à partir de ce qui est encore en débat aujourd'hui. L'État politiquement fort peut seul assumer un libéralisme politique autorisant et favorisant, non pas par impuissance ou par négligence, mais par une abstention attentive. L'abstention est peut-être l'activité la plus difficile qui soit. Ne pas agir, se retenir d'agir. Donc, favorisant par une abstention attentive le développement économiquement libéral d'une société civile, portée d'une part par la libre initiative des individus et d'autre part par le mouvement spontané de son universalisation ou mondialisation. Car il y a une vérité socio-économique, et c'est la seule, il y a une vérité socio-économique du cosmopolitisme. Or, l'autorégulation spontanée, de moins en moins volontaire, de la vie économique mondialisée, peut de moins en moins assurer la satisfaction de ses agents et la sécurité de leur ensemble. Hegel ainsi considérait que quand le marché devenait mondial, le chômage devenait définitif et ne pouvait être combattu que par des expédients. Il y a donc une exigence déjà proprement socio-économique, d'une part de solidarité, d'autre part de gouvernance. Mais la correction du libéralisme, selon Hegel, ne peut être elle-même que libérale, sauf à mettre en cause dans la société providentielle où est bureaucratique, le principe même de la société et donc de l'état dont elle produit la vitalité, cela ainsi que l'histoire l'a montré. L'histoire a montré que la conciliation du libéralisme et de la sécurité ne pouvait pas s'opérer par la voie sécuritaire ou socialiste, mais uniquement par la voie libérale. La correction de la société civile ne doit jamais mettre en question, lors même qu'elle le limite, le principe de la libre initiative. C'est pourquoi l'intervention socio-économique, non proprement politique de l'État, doit pallier fermement, certes, mais non vouloir supprimer à tout prix l'inévitable négativité de la vie socio-économique, dont la rationalité impersonnelle, c'est un animal sauvage, disait Hegel, etc., dont les réseaux ne peuvent pas être maîtrisés par un soi, dont la rationalité impersonnelle ne peut s'élever à la maîtrise de la raison volontaire qui organise l'État parvenu à sa vérité. Le monde contemporain semble comprendre plus largement que politique est bien la tâche prioritaire du politique réalisée dans l'État, dont le corps propre, l'incarnation essentielle, est la particularité nationale soudée historiquement à elle-même et non pas la société dispersante en sa destination universelle. Le national, plus vrai que le social. Hegel a exprimé 4 réquisits principaux de l'assomption rationnelle de cet État par lui-même. Premièrement, l'État-nation, étant cette communauté ou totalité solide, assez forte, pour assurer la sécurité, en laquelle des hommes, même adversaires, je ne dis pas ennemis, mais même adversaires en de nombreux domaines, s'accordent quand même pour y réaliser aussi leurs objectifs extra ou suprapolitiques. La nation, dont Hegel parle moins que l'État, mais il la présuppose. La nation, c'est une unité voulue par elle-même. On a souvent voulu l'avoir fragilisée au point d'en faire un être de raison, nominalisme. On a voulu souvent l'avoir fragilisée par le fait qu'on ne savait pas comment la définir. On ne peut pas la définir par l'unité de la langue. Il y a des nations multilinguistes. Par l'unité de la religion, etc. C'est que l'unité nationale, elle n'est pas déterminée, elle n'est pas limitée. C'est une unité absolue. Son caractère, c'est d'être une unité de vie forgée par l'histoire, à travers des conflits. Dans la nation, il y a des tas de gens que je n'aime pas. Je ne me complais pas en tout ce que j'y trouve. Mais au fond, je préfère vivre avec ses adversaires qu'avec d'autres qui seraient d'accord avec moi, mais ailleurs. Braudel a très bien parlé de la nation dans l'identité de la France. Il a très bien dit qu'il y avait deux sortes de gens. Il y a des gens qui sont des gens de la patrie. Mais la patrie, c'est essentiellement la petite patrie. Elle n'a pas nécessairement la force me permettant de vivre une vie à peu près normale pour moi, avec d'autres qui n'ont pas toujours les mêmes valeurs que moi. Braudel pense que la nation est plus importante, je suis comme lui. C'est l'unité absolument inévitable dans laquelle on peut poursuivre même des objectifs supranationaux. Et l'État qui rationalise la nation, qui l'organise, l'État-nation, doit être voulu par les hommes ou par les citoyens, au nom même du devoir qu'ils ont d'accomplir, moyennant leur citoyenneté alors exigeante, une humanité qui la dépasse. L'homme doit à l'État-nation qu'il institue citoyen d'avoir des droits, quels qu'ils soient, même de nature non politique, d'avoir des droits effectifs. Mais cet État-nation, devant sa force, à son unité identique à elle-même, en son progrès, la citoyenneté est un devoir indivisible en son socle national, bien loin qu'il y ait quelque sens à parler d'un droit à une citoyenneté partielle, par exemple municipale. Je suis surpris de voir des gens sollicitant une investiture nationale mettre à leur programme l'institution d'une citoyenneté purement municipale. Le citoyen est bien le support, le substrat, la substance, le substantif de l'existence même extra ou supracivique que notre époque a tort parfois de disqualifier en un simple qualificatif ou adjectif en faisant par là disparaître le citoyen dans des activités dites citoyennes. La transformation du substantif en adjectif est sa disparition même. Deuxièmement, le devoir politique prioritaire d'assurer l'unité de la vie rationnelle de l'État-nation fait majorer par notre époque, au sein des pouvoirs pourtant organiquement liés en droit comme ils le sont dans leur exercice de fait, le pouvoir du chef de l'État constitutionnel qui incarne, non pas qui représente, mais qui est l'unité vivante de cet État dans sa décision suprême. Couronnant sa préparation la plus rationnelle, conforme à la législation à laquelle participent les citoyens, élaborée par le gouvernement ainsi que par le cabinet, prolongement de la personne princière, disait Hegel, donc sans aucunement, par cette préparation même, s'inscrire dans l'irrationalisme d'un décisionnisme pur à la Carl Schmitt, la décision souveraine excède pourtant toujours cette préparation la plus rationnelle, en tant qu'elle tranche entre des projets également rationnels, à tout projet on peut en opposer un autre, et c'est bien ce que les citoyens attendent toujours du chef de l'État, qu'il soit désigné par la naissance ou qu'il soit désigné par un vote. Il ne se prononce pas pour l'élire ou pour l'admettre sur un programme, surtout à notre époque, où la complexification accélérée du monde rend tout programme impossible à vraiment réaliser. Ce n'est pas là-dessus qu'il se prononce, ce n'est pas ce qu'il prenne en considération, d'où l'erreur de l'institution des sondages qui les interroge à travers la question du jugement sur un programme. Ce qu'ils recherchent, ce à quoi ils tiennent, c'est à ce que le chef de l'État semble posséder l'énergie de la décision toujours risquée, le courage audacieux de mettre le point sur le i. Mais c'est si difficile. Troisièmement, l'actualité confirme aussi, je n'ai guère à y insister, la doctrine hegelienne de la rationalisation effective des relations internationales. Les nations restent une simple société et ne peuvent pas devenir, ou il faudrait des siècles, une simple société et non pas une communauté des nations. Et le droit international porte bien son nom, international et non pas supranational. L'autolimitation de l'État-nation maintient cet État dans sa sphère, il ne peut pas abdiquer totalement sa souveraineté. Ou disons-le autrement, le cosmopolitisme n'est jamais politique. Quatrièmement, s'il y a un lien plus intime des peuples, Hegel le fait s'annoncer dans l'histoire mondiale, mais l'esprit du monde qui embrasse ses peuples est l'expression mondaine, déjà, de l'esprit absolu dont le cœur est la religion. Conscience de l'absolu, la religion et la conscience absolue, socle aussi de la vie politique. Voilà pourquoi l'État ne peut, comme il le doit, se réaliser en sa vérité proprement politique, donc à son propre niveau, selon ses exigences propres, disons de façon laïque, que si la religion en elle-même autorise un État non déterminé par elle. Et ça n'est pas toujours le cas. Je n'ai pas le temps d'insister sur l'articulation extrêmement précise que Hegel établit dans l'unité de l'esprit d'une nation ou d'un peuple entre la politique, la religion et la philosophie. On n'a pas, je crois, fait mieux dans l'analyse des rapports de ces trois dimensions. Hegel considère que tous les hommes se valent, mais que toutes les cultures ne se valent pas. Et qu'autant il faut être tolérant avec les hommes, il faut être intransigeant lorsqu'il s'agit des cultures. Et il sait que toute culture ne remplit pas sa destination, qui consiste à libérer l'homme. Et le critère, déjà dit ici, est un critère absolu parce qu'il est formel. Une culture, quelle qu'elle soit, est d'autant plus vraie qu'elle permet à ses adeptes de se libérer d'elle. Par conséquent, là aussi, le hégélianisme semble bien vérifié. L'actualité la plus brûlante vérifie le propos hegelien en ce qui concerne les conditions qui permettent la réalisation d'une constitution libre. La religion fixe dans l'être la politique et l'État. Mais le devenir de la religion, lui, a sa source là où le devenir est effectif, objectif, c'est-à-dire au niveau du politique. C'est dans la mesure où le politique évolue qu'une religion peut évoluer. Le devenir du politique conditionne le devenir de la religion, l'être de la religion conditionne l'être du politique. Sans aucun doute, on pourrait enrichir notablement les traits hegeliens du monde actuel, j'ai laissé de côté entre autres ce qui concerne le droit au sens strict du terme. Sans doute inversement trouverait-on dans l'actualité des démentis aux propos plus déterminés, plus précis de Hegel, par exemple, à son exaltation du chef de l'État comme monarque constitutionnel désigné par la naissance, et encore. Mais le sens profond d'une détermination positive est donné par sa raison d'être et non par la contingence de sa prégnance historique. Et pour ce qui est de l'essentiel, je crois qu'on peut considérer que notre époque réfléchit plus que tout autre le message hegelien. Monsieur le Président, j'en ai pour quelques instants, je vais évoquer rapidement le dernier problème. Y a-t-il dans notre monde des novations qui rendent caduques ou qui démentent la pensée hegelienne? Des phénomènes nouveaux, en effet, pourraient bien, semble-t-il, d'abord rendre caduque le message hegelien. Le premier est l'entreprise présentée comme la plus inouïe de l'époque, la construction politique de l'Europe. Le second est l'intervention d'un nouvel acteur surpuissant de l'histoire, puisqu'il s'agit de la nature, intervention qui semble imposer une redéfinition de cette histoire que Hegel a dite en sa signification essentielle finie. Je voudrais rapidement examiner ces deux objections possibles au hegelianisme. Qu'on la veuille fédérale ou simplement confédérale, en tout cas dotée d'une souveraineté politique, l'Europe, comme nation ou quasi-nation, exclurait la persistance en elle comme nation réelle des nations existantes qu'elle réunirait. La binationalité, qu'elle soit verticale ou horizontale, n'est-elle pas seulement métaphorique ou métaphorisante? Que des nations solidement constituées se fondent en une nouvelle nation durable, l'histoire, à ce qu'il me paraît, en tout cas j'en ai pas trouvé, ne fournit aucun exemple. Cela ne signifie pas que ce n'est pas possible. Mais la chose réclamerait plus que des décennies et rien n'indique que c'est une nécessité. L'unité culturelle favorise sans doute. L'unité économique exige peut-être, pour sa maîtrise, une unité politique. Mais favoriser et exiger, ce n'est pas produire. J'ajoute d'ailleurs qu'Hegel prend bien soin de distinguer le culturel et le politique. Le culturel dépend de l'entendement, ce pouvoir qui différencie, qui analyse. Des peuples qui ne sont pas entrés dans l'histoire encore, qui ne se sont pas élevés au niveau du politique, ont pu avoir une culture très brillante, qui s'exprime en particulier au niveau de la langue. Grammaire très riche, mais l'entendement, ce n'est pas la rationalité. La puissance d'analyse de l'abstraction qui agit dans la langue n'est pas la puissance rationnelle qui concrétise ou qui totalise. D'ailleurs, Hegel le remarque, la langue des nations politiquement les plus développées comporte une grammaire qui est souvent insignifiante. Et il évoque, par exemple, l'anglais. Le culturel et le politique, c'est tout à fait différent. On ne peut pas passer du culturel et politique. Ce n'est pas parce qu'il y a une unité culturelle de l'Europe qu'il peut y avoir une unité politique de l'Europe. Hegel remarquait que toutes les fois que l'Europe avait voulu s'unifier, elle en était ressortie plus divisée. Il n'est pas prouvé, mes chers confrères, qu'il a eu raison, mais il n'est pas prouvé non plus qu'il a eu tort. Puisque de toute façon, il ne saurait y avoir de solution de continuité dans la réalité de l'État-nation, la pensée hegelienne, me semble nous conforter au moins dans la nécessaire prudence. Il ne faut pas brûler ces vaisseaux nationaux avant d'avoir construit un nouveau vaisseau national. La construction est peut-être possible, mais c'est une affaire de siècles. Et c'est pas sûr. Quant à la redéfinition de la tâche politique de l'actualité que l'actualité imposerait, elle n'infirme pas, à vrai dire, la thèse hegelienne de la fin de l'histoire universelle telle qu'il l'entend. Car celle-ci, et j'ai rappelé naguère ici même, qu'elle ne signifiait pas la fin des vicissitudes empiriques, les conflits à travers lesquels se réalise la structure rationnelle définitivement vraie de l'État politiquement fort, socio-économiquement libéral. Celle-ci, cette histoire universelle, est bien close comme histoire de la raison universelle, construisant son monde une fois que s'est apaisée l'autre histoire primitive, pré-spirituelle, l'histoire de la nature. Celle-ci, l'histoire de la nature, que Hegel compare au long cauchemar meublé de gigantesques soubresauts de l'esprit encore endormi, a cessé lorsque cet esprit s'est éveillé à la conscience et que l'homme est venu, le temps des catastrophes naturelles, laissant alors la place au temps, c'est un temps de luxe celui-ci, au temps des crises propres à l'histoire humaine. Alors, et pour reprendre le couple hegelien de la condition, ce sans quoi, et de la détermination, ce par quoi, la nature cesse d'être déterminante. Pour n'être plus que conditionnante, et l'histoire profite de la pause de la géologie ou de la géographie. Mais si le réveil actuel de la nature est indigène, et non pas provoqué d'abord par l'imprudente histoire humaine, dans l'incertitude d'ailleurs, l'homme doit pour le moins faire comme s'il en était le responsable. Car s'il en était le responsable, quel bonheur! Il ne faudrait pas négliger. Recherche des remèdes. Si, comme Hegel le redit en citant le texte sacré, le ciel et la terre passeront. Si, comme il le déclare encore, la grande chimie de la nature, qu'est la météorologie, en sa puissance tellement incommensurable, se moque de la chimie humaine. Si la nature de la sorte devient par elle-même l'acteur de l'histoire des hommes, alors la gestion nécessairement politique, elle ne peut pas être autre dans la collaboration des nations organisées selon le schéma que Hegel a dit, État politiquement fort, socio-économiquement libéral. Alors la gestion nécessairement politique de cette histoire bouleversée, au-delà même de ce qu'envisage l'écologie, sera changée, et une philosophie de l'histoire et de la politique se réécrira à travers une catégorisation, sinon renouvelée, du moins développée, tant du moins que la nature permettra une incarnation humaine, vivable, de l'humanité, ou, en termes hegeliens, tant que l'esprit infini appellera à la liberté des esprits finis en cette incarnation mondaine-ci. Mais la conception hegelienne des rapports entre l'esprit et la nature aura bien encore ouvert, je crois, la compréhension d'un tel avenir de l'être et de sa pensée. Deux lignes de conclusion. Mon intention n'a pas été d'ériger ici à Hegel la statue qu'il n'a pas eue à Paris et qu'il eût pu avoir dans notre académie restaurée en 1832, où furent bien élus ses adversaires Schelling et Savigny, et il n'aurait été élu, étant donné la présence du cousin, s'il n'était pas mort un an tôt, en 1831. J'ai simplement dit pourquoi. Plus est mieux que tout autre penseur. Il aide, il peut aider puissamment à penser un présent du monde qui, bientôt deux siècles après lui, est malgré l'extrême accélération de son développement, l'actualise encore en ses tendances essentielles, sans peut-être assez profiter de leur fortifiante justification hegelienne. Il n'y a pas pour nous un devoir d'hegelianiser, mais notre intérêt, si nous voulons nous y retrouver dans notre monde, est que nous rencontrions Hegel, c'est de ne pas, comme l'ont fait ses successeurs en philosophie, les grands penseurs qui l'ont rejeté, c'est de ne pas congédier Hegel prématurément, mais de nous mettre à sa propre hauteur pour, grâce aussi à lui, aller plus loin que lui. Si, Monsieur le Président, mes chers confrères, nous le pouvons.
Vous pouvez lire l'intégralité de la communication de Bernard Bourgeois sur le site de l'Académie www.asmp.fr, rubrique Actualités.